en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre invité dans cette nouvelle émission en habit vert est chimiste. Il s'est tourné petit à petit, et il nous le dira comment, vers la chimie de l'oxydation, notamment dans le domaine de la biologie. Et aujourd'hui, il travaille à l'élaboration de nouveaux traitements pour lutter contre le paludisme, la bilharziose, deux maladies que l'on retrouve dans les pays en voie de développement, mais aussi les maladies neurodégénératives. Et il a créé pour cela sa propre société en 2000, Palumed, et propose des brevets aux industries pharmaceutiques. Nous en parlerons aussi au cours de cette émission. Bernard Meunier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie.
Avec plaisir.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences dans la section chimie depuis 1999. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez au laboratoire de chimie de coordination du CNRS à Toulouse. Aujourd'hui, vous êtes membre du conseil d'administration de Palumed, société que j'ai citée en préambule. Vous avez reçu plusieurs prix prestigieux, la médaille d'argent du CNRS en 1991, plusieurs prix de l'Académie des sciences. Et puis dernièrement, en 2009, la médaille d'or de la Société d'encouragement au progrès. Alors, nous reparlerons en dernière partie d'émission, si vous le voulez bien, de votre souci, justement, d'encourager les entreprises innovantes. Vous nous parlerez de votre propre expérience. Mais débutons, si vous le voulez bien, par vos études et notamment vos rencontres, car le plus souvent, ce sont les rencontres qui fixent le chemin d'une carrière. Comment avez-vous rencontré les deux personnes que sont Robert Corioux et Hugh Falkin ?
De très belles rencontres. Je crois que dans la vie scientifique, on a une chance formidable, c'est de rencontrer des gens. Alors, quand on est jeune, on rencontre des personnes plus anciennes, plus âgées. Et quand on est plus âgé, on a la chance de rencontrer des jeunes. Donc, je crois que c'est ce qui fait l'attrait et la spécificité et le plaisir de la carrière scientifique. J'ai eu l'occasion de rencontrer Robert Corioux lorsqu'il était enseignant à Poitiers. À cette époque-là, l'université de Poitiers avait réussi, par les hasards des nominations entre des différents collègues, d'avoir des chimistes de renom. Et Robert Corioux en faisait partie. Et il avait été nommé ensuite, en 1969, à Montpellier. Je suis parti à Montpellier avec lui. Donc je faisais partie de sa bande de Poitevins qu'il avait emmené à Montpellier. Et j'ai eu un jury dans mon jury de thèse de troisième cycle. J'ai eu la chance d'avoir Hugh Falkin, qui était un directeur de recherche britannique, toujours eu son passeport britannique, directeur de recherche au CNRS, et qui était connu et réputé pour avoir une pensée assez aiguisée et parfois acerbe. Et quand on résistait à Hugh Falkin, en général, on résistait au monde entier. Voilà. Voilà les deux personnes qui m'ont marqué au début de ma carrière. Et après, j'ai eu le plaisir, parce que j'ai fait ma thèse d'État. À l'époque, on faisait deux thèses à l'université d'Orsay, mais au laboratoire de chimie des substances naturelles du CNRS à Gif-sur-Yvette. Et là, il y avait Pierre Potier qui était en train de développer ses nouveaux anticancéreux, la navelbine, ensuite ce qui deviendra aussi le taxotér, deux anticancéreux majeurs, en particulier le taxotér. Et donc, ça a été le plaisir de le rencontrer, de discuter avec lui. Et après, on s'est retrouvés plus tard quand j'ai eu d'autres fonctions. Claude Paoletti, c'est une autre rencontre. C'est une rencontre lorsque je suis arrivé en 1979 à Toulouse. Claude Paoletti était à ce moment-là directeur du laboratoire où je n'étais pas inscrit en quelque sorte. J'ai quitté Gif-sur-Yvette pour aller au laboratoire de chimie de coordination, mais qui était situé sur le même campus, partagé des locaux communs, avec le laboratoire de pharmacologie et toxicologie fondamentale, qui était dirigé par Paoletti, un pharmacien parisien qui avait une équipe de recherche à Villejuif, à Paris, qui m'a réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire. Pendant plusieurs années, j'avais une équipe dans les deux laboratoires et je signais sans aucun problème mes publications scientifiques avec une double adresse. Je ne suis pas sûr que hiérarchiquement ça a été perçu complètement, mais de toute façon ça a été 5 à 6 merveilleuses années et j'ai eu grand plaisir à côtoyer donc Claude Paoletti à cette époque-là.
Et c'est comme ça que vous êtes passé de la chimie organométallique à la chimie de l'oxydation.
Je dirais que, effectivement, la chimie organométallique, c'était un départ avec Robert Corioux et le fait d'être à l'Institut de chimie des substances naturelles, travaillant toujours sur quelque chose qui n'était pas directement lié aux substances naturelles, mais on avait la chance d'avoir des conférenciers du monde entier, de grands talents, parlant de la chimie et de la biologie. Il y avait Edgar Leda, Schneider, Benoît Jeannot, il y avait un certain nombre de personnalités de la chimie biologique, chimie thérapeutique, et ça a été extrêmement formateur. Donc moi, je retiens de cette période qu'il faut avoir, quand on est jeune, beaucoup de curiosité scientifique et assister aux conférences en dehors de son domaine pour se cultiver et avoir le plaisir d'interagir avec d'autres domaines. Voilà.
Et on sent que vous passez en même temps un message.
Ah, très, très, très. Oui, il faut oser, il faut passer des messages.
Votre domaine de recherche, petit à petit, donc, se tourne vers la chimie biologique et thérapeutique. Donc, vous marchez sur les traces de Pierre Potier.
Oh, j'essaie de marcher sur les... Je ne sais pas si c'est les traces de Pierre Potier, mais enfin, il est évident que Pierre Potier a été, dans le domaine de la chimie thérapeutique, un des grands chercheurs français dont on peut être très fier et très content. C'est des choses, la mise au point d'un médicament, ce n'est pas une aventure facile. Donc il faut beaucoup de persuasion et Pierre Potier n'en manquait pas.
Alors avançons, si vous voulez bien, parallèlement, donc vous entrez au CNRS, au début en tant que stagiaire de recherche en 1973, et petit à petit, vous allez gravir les échelons et devenir président du CNRS en 2006. Expliquez-nous cette avancée.
Je crois que oui, au CNRS, j'ai eu la chance d'avoir tous les échelons, y compris qu'on a changé quand les maîtres de recherche sont passés directeurs de recherche et ainsi de suite. Donc je crois que j'ai la panoplie complète de tous les grades possibles au CNRS. Et en 2004, en octobre 2004, on m'a demandé d'assurer la présidence du CNRS, ce que j'ai fait jusqu'en 2006. Voilà.
Oui, effectivement, en 2004. En préparant cette émission, vous m'aviez parlé, justement, en tant que président du CNRS à cette époque-là, de la solitude du pouvoir. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots ?
Je crois qu'à partir d'un certain niveau de responsabilité, il faut être conscient qu'on a beaucoup d'interlocuteurs, un nombre très limité de personnes avec qui on peut avoir des discussions extrêmement franches, précises, qui permettent de ne pas s'égarer, d'éviter de se laisser prendre par la fonction. Président d'un grand organisme de recherche ouvre un certain nombre de portes, mais qu'il est important de continuer à exercer ses responsabilités en étant conscient que le pouvoir, d'une part, isole, et peut parfois griser certaines personnes. Et il faut toujours rester très près de ses bases pour éviter tout écart.
On vous sent très prudent. Hein. Est-ce que cela vous a pesé de passer à la partie administrative ?
Non, pas du tout, parce que je pense que le rôle du président du CNRS n'est pas un rôle, disons, de gestionnaire administratif. Le rôle du président, c'est d'avoir une vision sur le long terme, sur l'évolution de la recherche française par rapport au contexte international, d'une recherche qui a toujours été très mondialisée. Ce n'est pas récent, la mondialisation pour la recherche, c'est quelque chose qui a toujours été en phase avec l'international, et les références dans le domaine de la qualité et de l'excellence de la recherche sont des références internationales. Donc je crois que c'est le rôle du président d'un grand établissement public de recherche de regarder le lointain et pas simplement être englué dans le quotidien.
Et alors, parallèlement à votre ascension au sein du CNRS, vous créez en 2000 Palumed. Alors, comment est né Palumed ?
Dans ma liste de publications, j'ai un certain nombre de publications, mais j'ai surtout aussi des brevets. Donc je crois que j'ai toujours été intéressé par assurer, et ça a même été une idée directrice, les recherches fondamentales doivent rester connectées avec la réalité de la société, la réalité du progrès et de l'innovation dans le domaine thérapeutique, des choses qui m'intéressaient. Donc il y a un certain nombre de brevets que j'avais signés qui étaient restés un peu sur les étagères, pour reprendre une image. Et dans le cadre du paludisme, j'avais envie de sortir un peu de ça. Et la loi Allègre, de Claude Allègre, en 1999, permettait effectivement aux chercheurs statutaires CNRS, dans le statut de la fonction publique, de créer des entreprises privées, participer à la création d'entreprises privées. Ça a été le cas. Palumed a été créé avec 9 personnes physiques en tant que société anonyme en décembre 1999. Et avec des collègues. Et ensuite, on a réussi à faire financer la société par des investisseurs et en signant un contrat avec un groupe pharmaceutique. Voilà.
Donc, vous avez travaillé au sein de Palumed pour travailler à partir de brevets que vous aviez déjà et aussi travailler à partir de brevets que vous êtes allé chercher.
Il y a eu au départ essentiellement des brevets qui étaient des brevets CNRS. Le premier brevet sur les antipaludiques, les trioxakines, d'un brevet qui a été déposé par le CNRS en 2000, et ensuite au sein de la société Palumed, en collaboration avec un groupe pharmaceutique et le CNRS, il y a eu 2 autres brevets complémentaires qui ont été déposés en copropriété avec les 3 partenaires.
Vous avez donc travaillé sur le paludisme, mais également la bilharziose. Est-ce que c'est un hasard de vous intéresser à ces maladies essentiellement?
Non, il y a un lien scientifique très direct et qui est lié au mécanisme d'action des trioxacines qui interagissent avec l'hème libéré lors du métabolisme de l'hémoglobine par le plasmodium dans le cas du paludisme. Et dans le cas de la bilharziose et les schistosomiases, le ver responsable de cette maladie a, à un moment de sa croissance, à une période dite hématophage, il consomme de l'hémoglobine et donc libère de l'hème. Et effectivement, à partir de cette considération d'ordre mécanistique, on a regardé l'activité de certaines trioxacines sur la bilharziose, qui est une maladie très négligée. Beaucoup plus négligée que le paludisme, parce que contrairement au paludisme, à d'autres maladies, le paludisme, c'est le moustique qui est le vecteur, et le moustique ne fait pas la différence entre les personnes qui vivent dans les zones endémiques et le touriste, alors que si le touriste évite dans les zones endémiques de la bilharziose d'aller piétiner les petits mollusques, escargots
dans les eaux stagnantes,
les rivières, marécages et autres, il n'y a pas de risque d'attraper la bilharziose. Voilà. Mais c'est une maladie qui touche tout de même 200 millions de personnes dans le monde.
Alors,
qui est extrêmement invalidante.
La question que pourraient se poser nos auditeurs internautes, c'est est-ce que justement ces molécules que vous avez réussi à fabriquer, est-ce qu'elles sont déjà mises sur le marché ou est-ce que vous êtes encore à l'étude dessus?
Malheureusement, non, elles ne sont pas sur le marché. Les choses avancent lentement. Sur la bilharziose, nous sommes en train de discuter un contrat avec une société européenne, non française, européenne, pour essayer de développer. Ce sont des domaines thérapeutiques qui sont proches du mécénat, et donc il faut trouver des mécènes industriels pratiquement pour développer ces molécules.
Vous cherchez des mécènes industriels, et pourtant on pourrait penser que vous êtes donc proche de l'industrie pharmaceutique, on pourrait penser justement que ce sont des milieux où l'argent se trouve facilement. Qu'en est-il justement de votre situation? Comment ça se passe pour trouver des fonds?
La vie est beaucoup plus compliquée que ça. Les groupes pharmaceutiques ont des obligations vis-à-vis de leurs actionnaires, et donc c'est une industrie dont les actionnaires attendent des retours sur investissement beaucoup plus que dans d'autres domaines. C'est l'histoire de l'industrie pharmaceutique des 40 dernières années. Ce qui fait que le traitement des maladies négligées est à la fois une obligation morale. On sent très bien que les retours sur investissement, pour reprendre un jargon financier, n'ont rien à voir avec les domaines thérapeutiques touchant les pays développés, ce qu'on appelle pudiquement les pays du Nord. Donc les choses sont compliquées. Il y a un certain nombre d'organisations non gouvernementales, de fondations qui s'intéressent, très anglo-saxonnes, très tournées vers des opérations qui souvent peuvent être influencées par l'impact qu'elles peuvent avoir auprès des médias. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué.
Et nous allons reparler
pudiquement.
Et nous allons reparler au cours de cette émission de l'impact dans les médias. Auparavant, donc je le disais, vous avez créé cette société Palumed en 2000. Aujourd'hui, vous êtes membre du conseil d'administration. Est-ce que pour autant vous vous estimez chercheur homme d'entreprise chercheur ou chercheur tout court? Comment vous situez-vous?
Ah, c'est simple. Les entrepreneurs trouvent que je suis chercheur et les chercheurs trouvent que je suis entrepreneur. Donc lorsque vous êtes l'interface d'action dans une carrière qui, pour moi, est une carrière qui ne m'a pas posé de problème. Je pense que la création d'entreprise et le travail en entreprise, surtout dans le domaine de la recherche thérapeutique, c'est quelque chose qui intègre directement les comportements, les raisonnements intellectuels qu'on peut avoir en tant que scientifique en recherche fondamentale. Ça ne me pose pas de problème. C'est souvent le regard qu'on pose sur vous. Et les gens aiment bien mettre tout le monde dans une petite case bien précise. Parce que quand on est dans une petite case bien précise, grosso modo, on peut savoir comment la personne va se comporter. Si elle n'est pas tout à fait dans la case prévue, on se dit, mais comment va-t-il réagir? Va-t-il réagir en chercheur, en entrepreneur? On ne sait pas. Voilà. Alors, j'étais habitué à ça, ce n'est pas grave. On me demande si je suis biologiste, biochimiste, chimiste. Je suis chimiste, m'intéressant à un certain nombre de choses. Voilà.
Quel est votre regard sur la création d'entreprises innovantes en France au regard de ce qui peut se passer dans les autres pays, et notamment la Chine?
Moi, je vais le remettre dans le contexte très international. Je crois que la France essaye de faire des efforts. Malheureusement, on n'a pas encore très bien compris que la création d'entreprises est le seul moyen de créer des emplois nouveaux. Les grandes entreprises multinationales, dont certaines sont encore basées en France et dont on sent très bien qu'il faudrait peu de choses pour qu'elles quittent la France, ne sont plus les entreprises qui sont en mesure de créer des emplois en France, compte tenu du contexte français. Donc, il faut créer de nouvelles entreprises si on veut avoir des emplois à offrir aux jeunes formés en France. Mais l'entreprise en France est toujours perçue comme à la fois le diable que l'on a envie d'embrasser et dont on se dit qu'il va pouvoir fournir de l'argent à tout le monde, et tout en étant quelque chose dont on se dit c'est pas sûr que ça soit très bien et c'est compliqué. On a une vision un peu schizophrénique de l'entreprise en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, et il est évident que la Chine aime ces entreprises, surtout quand elles sont chinoises. On n'a pas du tout, quand on est en Chine, la peur de l'entreprise, au contraire.
Alors je vous propose de marquer une pause, si vous voulez bien, Bernard Meunier. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission En habit vert. A tout de suite.
Canal Académie vous propose une série d'émissions consacrées au compositeur Olivier Messiaen. Sa grande sensibilité aux chants d'oiseaux, son sens de la pédagogie au Conservatoire de Paris, sa prédilection pour l'orgue. François-Bernard Mache, Claude Samuel et Michel Fischer apportent leur témoignage sur ce grand musicien du XXe siècle. Ces émissions sont à écouter sur canalacademie.com.
Suite de notre émission En habit vert en compagnie de Bernard Meunier. Dans cette deuxième partie d'émission, Bernard Meunier, je vous propose de vous intéresser à la notion de prise de risque et l'image négative de la chimie. Alors, lors de cette préparation de notre entretien, vous m'avez dit « Les gens qui ne veulent pas prendre de risques favorisent des systèmes compliqués. Le risque zéro, le principe de précaution, contribue à déclencher l'angoisse. » Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Je crois qu'on vit à une période assez étonnante du développement de l'humanité. Jamais on n'a vécu aussi longtemps et aussi vieux sur cette planète. Jamais on n'a été aussi nombreux. Donc on a à la fois maîtrisé les problèmes de mortalité infantile, problèmes du développement, et on se retrouve avec l'application d'un certain nombre de règles d'hygiène qu'on va qualifier de pasteuriennes, plus un certain nombre de médicaments et d'actes thérapeutiques, avoir une espérance de vie qui est agréable. Le plus important, effectivement, c'est de vivre le plus longtemps avec le minimum d'ennuis physiques. Et ça, ça atteint tout de même un certain nombre de personnes. Et parallèlement à ça, on n'a jamais été aussi anxieux. L'Europe est en paix depuis plus de 60 ans, mis à part un épisode sur la guerre de Yougoslavie qui nous a rappelé tout de même qu'on peut déraper facilement. Mais on est très anxieux et tout devient anxiogène. Et je ne suis pas pour que... Il y a les marchands de peur qui sont un peu partout.
Alors, qui sont les ces marchands de peur
c'est à la fois l'angoisse de l'humain devant l'avenir. Et quand on a peur, on se met ensemble. Et quand on a peur ensemble, on se met parfois dans une association. N'oublions pas que certains médias ont besoin de vendre, et la peur fait vendre. Si vous avez un accident, quelle que soit son importance, ça prend beaucoup plus de place que si on le connaît. Les trains qui arrivent à l'heure ne font jamais parler d'eux, et les trains qui n'ont pas d'accident non plus.
Vous voulez dire que toutes les peurs ne sont pas valables?
Je pense que cette société a besoin de regarder et qu'est-ce que l'on transmet, est-ce qu'on va transmettre à nos enfants l'idée que nous vivons dans un danger permanent, ce n'est pas le cas. Les espérances de vie sont là pour montrer que les choses ont évolué. Alors pour gérer cette peur, on s'entoure de systèmes compliqués, on veut organiser tout. Et un des points, l'un des sommets de cette organisation de lutte contre la peur et l'angoisse de l'avenir, c'est le principe de précaution. Alors le principe de précaution, prendre des précautions, a fait partie du mode de vie classique. On dit « faut prendre des précautions ». Et on est passé de « faut prendre des précautions » à « inscrivons un principe de précaution dans la Constitution ». Je crois que la Constitution, c'est la loi fondamentale des États démocratiques, ce n'est pas l'endroit pour mettre tous les états d'âme des citoyens. La Constitution doit être réservée pour les lois de la vie démocratique, les lois de notre République telles qu'elles sont, mais pas les états d'âme des citoyens. Les états d'âme des citoyens doivent se gérer autrement. Et je crois que ça a été une erreur et le principe de précaution a tendance, au fur et à mesure de son application, à devenir le principe d'inaction. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend des précautions maximum, on ne traverse pas la route, ni la rue, parce qu'il y a un danger pour aller le trottoir d'en face. Si jamais il y avait une voiture, si jamais, et si jamais il y avait une chaussée glissante, et si jamais, donc vous restez, vous ne bougez pas. Et ça, ce n'est pas acceptable. Une société ne peut pas se tétaniser elle-même avec, en permanence, le rappel au principe de précaution. Voilà. Donc je suis pour une étude dynamique, des discussions scientifiques sérieuses, de bonne foi. Il est important que ces discussions restent de bonne foi pour avoir une image un peu plus positive à offrir aux futures générations sur notre mode de vie.
Un risque zéro qui, vous le citez dans l'article L'actualité chimique, numéro 342-343, donc de juillet-août 2010, un risque zéro qui parfois peut provoquer l'inverse en fait. Au lieu de garder une population en vie, va provoquer des morts. Vous citez un exemple qui est celui d'Haïti, où on aurait pu traiter l'eau pour éviter du choléra. Et justement, on avait tellement peur en traitant l'eau de provoquer des maladies ou autres. Du coup, ce sont plus de 2000 personnes qui sont décédées. Vous pourriez nous en dire plus là-dessus ?
L'exemple que vous venez de citer est, à mon avis, un des exemples les plus importants. Reprenons les choses dès le début. Haïti subit une catastrophe, un tremblement de terre dévastateur, d'une très grande ampleur, qui désorganise complètement la vie des citoyens d'Haïti et la distribution des choses essentielles. La distribution des choses essentielles dans les sociétés modernes urbanisées et à forte densité de population, c'est souvent avoir de l'eau potable, garantie potable, et savoir traiter les eaux usées. Il y a beaucoup de monde qui sont arrivés au moment pour venir aider les Haïtiens après cette catastrophe, y compris des troupes de l'ONU. Et il y a ce qu'on appelle des porteurs sains de certaines maladies, et il y a des soldats de l'ONU qui, porteurs sains du choléra, sont arrivés en Haïti en important le choléra. Alors, en général, dans les catastrophes, on sait parfaitement traiter des choses qui sont facilement traitées quand il n'y a pas de catastrophe. Le traitement des eaux usées, les soldats savent faire ça, on fait des tranchées, on met de la chaux vive et on évite que les excréments se répandent et on rentre en contact avec les eaux potables. C'est quelque chose qui fait partie de l'hygiène classique que l'on connaît parfaitement depuis le début du 19e siècle et tout au long du 20e siècle. Maintenant, on fait des traitements compliqués, donc en fait les eaux usées n'ont pas été traités correctement pour des raisons qui sont souvent liées à des histoires très bureaucratiques, très compliquées, parce qu'on veut traiter moderne tout le temps, mais on ne le fait pas. Et il y a eu contamination. C'est-à-dire que le virion du choléra s'est retrouvé dans les circuits d'eau potable, c'est-à-dire dans les rivières. Et comme les conditions de traitement des eaux potables n'étaient pas assurées par les usines de traitement des eaux, qu'est-ce que l'on fait dans des périodes où il y a comme ça une catastrophe ? On sait très bien que l'eau de Javel, l'hypochlorite de sodium ou de calcium, est le produit chimique qui permet de rendre l'eau potable, même s'il y a un petit goût de chlore qui est désagréable. Mais ça permet d'éliminer tous les éléments pathogènes, y compris l'élément responsable de la transmission du choléra. On a beaucoup discuté pour savoir s'il fallait traiter avec de l'eau de Javel. Et moyennant quoi, on a discuté pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Pendant ce temps-là, le nombre de morts s'est accumulé. Il a fallu attendre 2500 morts avant que l'on réalise qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et qu'il fallait utiliser rapidement de l'eau de Javel pour rendre l'eau potable et permettre aux populations d'Haïti d'avoir une eau qui n'allait pas être le vecteur de transmission du choléra. Voilà, c'est un point essentiel. Je crois qu'il y a eu beaucoup trop de discussions, des inquiétudes sur le déclenchement de cancer par chloration des méthylcétones terminales dans les eaux potables, qui a été un cheval de bataille des années 80-90, ne s'applique pas en Haïti. Il y a d'autres urgences. Il faut hiérarchiser les urgences. Il ne faut pas arriver de manière dogmatique avec des idées qui sont des idées que l'on peut se permettre d'avoir dans des sociétés où, chaque matin, lorsque l'on ouvre un robinet qui distribue de l'eau potable, elle est potable dès le premier verre d'eau.
Et oui, donc vous souhaitez aussi un peu réhabiliter cette eau de Javel, hein, disons-le, puisque petit à petit est apparue comme une dangerosité, même il y a eu une question d'interdiction d'eau de Javel.
Alors, c'est extraordinaire et c'est ce que j'appelle moi un peu l'information asymétrique. Alors, jusqu'au 19e, 20e siècle, tout le monde était conscient que l'eau de Javel était un produit extraordinaire. Ça permettait d'éliminer tous les éléments pathogènes, les virus et bactéries, et on l'utilisait largamanu pour nettoyer les sols des hôpitaux. Et cette odeur d'eau de Javel dans les hôpitaux était la garantie. C'était un hôpital bien tenu, où l'hygiène régnait. Et puis peu à peu, on a diabolisé l'eau de Javel, parce que c'est dangereux, effectivement, ça fait des taches. On peut, si on met de l'acide dedans, du vinaigre, avoir des réactions, avoir des dégagements de chlore, quelques suffocations et peut-être, si vraiment c'est mal géré, des accidents un peu plus graves. Faisons l'équilibre entre les dangers et les bienfaits. On ne parle que des dangers. Je vais donner un exemple. Si vous regardez sur un moteur de recherche moderne, eau de Javel, vous associez comme mot-clé bienfait de l'eau de Javel, vous avez 2, 3 ou 4 réponses. Pas beaucoup. Si vous associez danger de l'eau de Javel, vous avez des milliers de réponses. Donc pour un jeune qui actuellement reçoit une formation principalement à travers un moteur de recherche sur Internet, il est convaincu que l'eau de Javel est un des produits les plus dangereux produits au 19e et 20e siècle. Il faut s'éloigner de l'eau de Javel, il faut aller vers le 21e siècle. le siècle du bonheur absolu à travers Internet. Et là, Internet vous dit, faites attention à l'eau de Javel. C'est quelque chose qui est dangereux. Il faut rétablir une information. Il faut éviter que les moteurs de recherche deviennent la fourniture d'une information que j'appelle asymétrique. Je ne sais pas si c'est un mot bien choisi pour désigner ça, mais revenons à l'essentiel et méfions-nous de l'utilisation des moteurs de recherche comme source de la culture scientifique et de la culture générale en général.
Dans votre réponse, vous avez parlé de cette bascule risque-bénéfice. Alors justement, comment analysez-vous la sortie de cette liste de 70 médicaments, une liste donc émise par l'AFSEPS et qui sont donc des médicaments sous surveillance?
Ah, le problème des médicaments est un problème qui est compliqué parce que c'est un problème médical et un problème industriel. Il faut gérer à la fois le côté médical et scientifique et le côté industriel. Il y a trois phases essentielles dans la mise au point des médicaments. Il y a la première phase, c'est la mise au point d'un modèle animal qui permet de trier parmi les molécules ou les agents, les futurs agents thérapeutiques, le meilleur. La deuxième étape, c'est la validation de ce candidat médicament chez les premiers malades traités. Donc là, il faut avoir une étude qui soit faite le plus sérieusement possible pour éviter d'exposer un nombre, premier nombre de malades dans des conditions parfois un peu difficiles et avoir une très bonne sélection du candidat médicament. Et la troisième phase, c'est une phase sur laquelle on n'a pas toujours été très performant ces derniers temps, c'est les phases de pharmacovigilance. Dès que l'on s'aperçoit qu'après un certain nombre de milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers de traitements, je rappelle que dans les phases 3 qui permettent l'agrément d'un médicament par les agences de santé, en général, c'est quelques milliers de personnes. Il est difficile d'aller au-delà pour des raisons évidentes de sélection des patients et intégration des patients dans des essais cliniques de très longue durée, très compliquées. On ne peut pas éternellement augmenter le nombre de malades en phase 3. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est dès les premiers rapports de pharmacovigilance, prendre des décisions. Et c'est ce qu'on ne sait pas très bien faire. Parce qu'il y a souvent des conflits d'intérêts et aussi parce que la prise de décision dans des commissions lourdes, un peu compliquées, dont la composition pourrait être largement améliorée, c'est quelque chose que l'on ne fait pas facilement. Donc, trop de comités, parfois, finit par aboutir à la non-prise de décision. Et c'est à ce moment-là qu'on le peut observer. On risque d'avoir quelques accidents thérapeutiques qu'il faut absolument éviter en prenant des décisions au bon moment. C'est en ayant des analyses scientifiques et médicales les plus pointues possibles en pharmacovigilance.
Mais vous avez parlé justement de cette peur de la science. Est-ce que justement ça ne va pas dans ce sens-là qui est de dire méfions-nous? Il y a donc, vous avez parlé de conflits d'intérêts, il y a donc 70 médicaments pour reprendre cet exemple qui sont peut-être autant de conflits d'intérêts. La science devient suspecte puisque les intérêts commerciaux, pour faire le café du commerce, les intérêts commerciaux prennent le pas sur l'intérêt médical et scientifique.
Très clairement, il peut y avoir des intérêts commerciaux qui prennent le pas. Ce n'est pas le seul facteur en difficulté. Il y a aussi la routine qui s'installe. Un médicament qui commence à être distribué correctement sur une application, un domaine thérapeutique qui a été celui pour lequel il a été sélectionné, pose moins de problèmes que lorsque l'on voit effectivement, y compris sous la pression des patients, le besoin d'utiliser des médicaments sur d'autres applications thérapeutiques qui n'ont plus rien à voir avec l'application initiale. Je ne vais pas revenir sur le problème du médiateur, mais on sait que c'est une dérive de l'utilisation. On est parti d'une molécule qui devait être utilisée uniquement dans le cadre de traitement de diabète à une molécule qui a été prescrite pour perdre quelques kilos avant l'été. Donc on est hors du champ thérapeutique. Il y a la pression peut-être du laboratoire, mais il y a aussi la pression des patients et de l'opinion publique qui souhaitent avoir des médicaments pas chers, confortables, que l'on puisse consommer. Et cette banalisation de la consommation du médicament est aussi un des facteurs qui contribue parfois à une mauvaise gestion des dossiers pharmaceutiques. Donc probablement qu'il faut faire un nettoyage dans notre arsenal thérapeutique pour garder que des médicaments ayant une efficacité avérée sur des domaines thérapeutiques très ciblés.
L'industrie pharmaceutique est une industrie de chimie. Est-ce que, et pour toutes les autres productions qui utilisent la chimie, est-ce que vous diriez qu'il existe des excès dans la production chimique? Et si oui, lesquels?
Alors, je vais revenir sur un propos. L'industrie pharmaceutique change. L'industrie pharmaceutique était très dépendante de la chimie depuis le début de la création de la thérapie chimie-thérapeutique, à la fin du tournant du 19e, début 20e siècle, jusque dans les années 1960. Et puis la biologie moléculaire, la possibilité d'avoir des anticorps monoclonaux, d'avoir de vaccins, des thérapies cellulaires, font que maintenant on a un équilibre qui est en train de se créer entre ce qu'on appelle, avec un néologisme nouveau, les biopharmaceutiques, les produits biopharmaceutiques, par opposition aux petites molécules fabriquées par les chimistes. Je pense qu'on ne basculera pas vers le tout biopharmaceutique, pour des raisons évidentes. Les petites molécules ont encore leurs vertus, et les coûts des produits biopharmaceutiques sont souvent très élevés, donc comme les budgets sociaux ne sont pas extensibles à l'infini, il faudra probablement un équilibre. Donc, gérons l'ensemble des phénomènes. Les excès de la chimie, pour répondre à la deuxième partie de votre question, il y a eu des excès de la chimie. Les excès de la chimie, dès qu'il y a une production de masse sur des biens de consommation ou sur, vous avez automatiquement derrière cette production de masse, des productions de produits chimiques, d'autres produits. Tout le monde veut du plastique pour un certain nombre de choses. Personne ne reviendra à l'évacuation des eaux usées avec de la fonte un peu poreuse. Les tuyaux en PVC sont bien plus efficaces et évitent tout ce que les anciens se souviennent. Les odeurs de la fonte poreuse ne sont pas très agréables.
On pense aussi aux pesticides, aux insecticides.
Mais alors, le problème des pesticides et insecticides, effectivement, on bascule dans l'excès. Lorsque vous avez l'utilisation dans la chaîne de production d'utilisation des pesticides et insecticides, qui ont tout de même permis de passer, par exemple, reprenons la production de blé avant 1914. Pour quelques quintaux de semences à l'hectare, la récolte donnait entre 8, 10, 12 quintaux à l'hectare. Nous sommes actuellement entre 80 et 90 quintaux à l'hectare, si je prends des exemples pour la France. Ça s'est traduit par nombre important de réduction des agriculteurs. Les 3 à 4% d'agriculteurs permettent à l'ensemble des Français de vivre et on exporte encore des céréales. Et nous sommes un pays exportateur de céréales. Il y a eu un excès parce que au moment où on voit les rendements augmenter, on a effectivement tendance à augmenter la quantité d'insecticides, de pesticides, peut-être au-delà de ce qui est raisonnable. Donc, quand on parle d'agriculture raisonnée, c'est une agriculture où effectivement on réfléchit, on ne se laisse pas emporter par l'idée que si on double la quantité au-delà de ce qui est recommandé dans le mode d'emploi d'insecticides ou de pesticides, mais pour être sûr que la récolte soit bonne. N'oublions pas que le problème de la bonne récolte a été, pendant des siècles et des siècles, l'angoisse des familles paysannes. Nous sommes arrivés à nous débarrasser de cette angoisse. On sait que la prochaine récolte de blé, bon an, mal an, va être une bonne récolte dans un pays comme la France, pas dans d'autres pays qui sont soumis parfois à des aléas très différents de la France. Mais dans un pays comme la France, on est sorti de cette angoisse de la mauvaise récolte et on a probablement surutilisé certains produits. D'autre part, et c'est maintenant une grande évolution, l'industrie chimique des pesticides et herbicides est parfaitement consciente que la biodégradabilité, la capacité que ont les micro-organismes et l'environnement à gérer la dégradation et le recyclage de ces produits de type insecticides et pesticides est prise en compte dès le début dans la conception. Donc, au nom des erreurs du passé, on ne peut plus condamner maintenant une industrie sur son avenir. Je crois qu'il faut analyser les choses et réfléchir et garder raison.
Donc vous êtes en faveur d'une production chimique raisonnée, mais qui prend en même temps les intérêts vitaux des êtres humains.
L'ensemble des intérêts.
Aucun
chimiste ne fabrique un produit pour prendre en compte autre chose que les intérêts vitaux des humains.
Mais si je vous dis ça, c'est parce que donc il y a quelque temps, nous avions reçu à ce micro votre confrère Gérard Ferret, qui est également chimiste, et qui nous faisait le constat suivant, qu'en Allemagne, par exemple, 70% de la population pense que la chimie est utile et qu'il faut la préserver, alors qu'en France, nous ne sommes que 20% à en penser du bien. Nous pensons que c'est une industrie de la pollution.
Alors, c'est effectivement une façon de décrire l'industrie chimique qui a été largement utilisée. On ne regarde pas le « j'ai fini ». S'habiller, se chausser sans produits chimiques, ça deviendrait compliqué. On aurait un mode de vie tout à fait extraordinaire. Nos voitures modernes incorporent un certain nombre de produits chimiques sans lesquels Il n'y aurait pas d'airbag, il n'y aurait pas des pare-chocs déformables et on serait encore aux aciers chromés dont on sait très bien que c'est polluant, inefficace et dangereux. Donc on refuse de voir. L'opinion publique en France est sous le charme de certains slogans. En France, on a eu un certain nombre de personnes qui ont souvent parlé de société post-industrielle. Ce slogan a été pris comme étant « supprimons l'industrie » en quelque sorte. Une fois qu'on n'aura plus d'industrie, on va vers le bonheur assuré. Très peu d'agriculteurs, quelques industriels et une société dite de service. On ne sait plus qui est au service de qui et comment seront payés les services. Mais cette notion de société post-industrielle a été énormément développée, soutenue en France. Les Allemands ont une vision différente. Les Allemands savent que leur industrie est essentielle pour leur mode de vie. Ils n'ont pas honte de leurs produits industriels, que ce soit les produits chimiques, les produits de l'industrie mécanique et autres. Donc, on se retrouve avec une perception de l'industrie qui est très différente. Je crois que beaucoup de gens devraient aller visiter, regarder un peu comment se passent les sites de production industrielle. On a beaucoup changé depuis les années 1920 ou 1940. Voilà.
Dernière question, Bernard Meunier, pour terminer cette émission. Quelles sont les relations que les médias entretiennent avec la chimie en particulier, puisque c'est notre sujet qui nous intéresse, mais disons les sciences en général ?
C'est des relations qui sont parfois ambiguës. Il est plus facile de dire que la chimie est dangereuse, que la physique est dangereuse, que la biologie est dangereuse, que tout est dangereux, que de dire qu'en fait, il faut veiller à un développement harmonieux des différentes industries, mécaniques, chimiques ou biologiques, avec la société. Donc on a un regard très négatif, au lieu d'avoir un regard qui soit un peu plus positif. Moi, je souhaite que l'on ait un regard positif sur l'ensemble des industries et que les Français regardent leur dynamique industrielle comme étant quelque chose de positif et non pas de négatif. Voilà. C'est pas seulement la chimie, c'est l'ensemble de l'industrie.